L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Immo et dans ce nouveau numéro de l'interview, l'émission qui prend le pouls des acteurs qui façonnent la ville de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Debord, directeur innovation et renaissance écologique du groupe Rabot du Tilleul. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Corentin.
Ça va bien ?
Ça va pas trop mal.
Pas trop mal, c'est que c'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Rodolphe, avant de plonger dans la démarche de ce qui caractérise aussi tes fonctions de renaissance écologique de Rabot du Tilleul, je voudrais juste revenir un peu un instant sur ton parcours qui est quand même riche de plus de 25 ans d'engagement au sein du service d'une ville ou d'un pays durable, ou d'un monde même durable, puisque tu es ingénieur agronome à l'aide depuis l'ENSAT de Toulouse, personne n'est parfait, hein, ENSAT de Toulouse, spécialisation environnement et ressources naturelles. Alors, tu as démarré ta carrière en tant que journaliste réalisateur en vulgarisation scientifique pour E égale M6. Ensuite, tu as fait un passage en Australie en consultant indépendant et tu as créé après, en 2003, Symbiose, un bureau d'études en développement durable. En 2006, tu deviens directeur associé chez B-Citizen, cabinet de conseil en stratégie carbone. En 2011, tu deviens directeur et responsable du développement durable chez Nakara, promoteur immobilier. Tu as mis en place des premières opérations BBC et HQE. Et en 2013, tu deviens directeur innovation et développement durable chez Rabot du Tilleul Construction. Tu as piloté des bétons bas carbone et des chantiers zéro déchet. Et depuis 2019, tu es directeur innovation et renaissance écologique, justement, du groupe Rabot du Tilleul, hein, pour le groupe. Alors, première question déjà, comment est né au sein du groupe ce concept de renaissance écologique et en quoi ça diffère d'une simple démarche RSE ? Simple, on peut dire simple, mais...
En rien.
En rien, c'est vrai. Cette réponse est très courte. En rien, je pense qu'il y a un petit peu plus à dire que tu n'es pas responsable des RSE, renaissance écologique. Et il y a quand même des choses derrière tout ça, des engagements.
C'est un parcours, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça développement durable, mais il y a peut-être un gag entre le fait que quand on ne fait pas de développement durable, on change le mot régulièrement, comme ça fait un petit peu mode, nouveau concept, et puis il y a quand même du fond. Donc là, en l'occurrence, il y a du fond. C'est fondé sur un livre qui s'appelle Renaissance écologique, qui a été écrit par Julien Dossier, dont on utilise souvent la fresque pour nos formations. Et Julien, quand m'a convaincu à la lecture de ce livre, vers 2016-2017, qu'il y avait beaucoup à faire par les entreprises pour recréer de la biodiversité, remettre du CO2 au bon endroit sur cette planète, en enlever là où il y en a trop. Et son livre, qui donne beaucoup d'espoir sur le fait qu'on puisse atteindre les objectifs de survie, le livre s'appelle Renaissance écologique, donc je trouvais ça assez sympa de rendre hommage à cet ouvrage et d'intituler mon poste Renaissance écologique. Ça pourrait s'appeler directeur RSE, en vrai, ça pourrait s'appeler directeur développement durable, mais je vois que ça interpelle, le mot Renaissance écologique. Ça permet de parler aussi de peut-être une notion de régénération, du fait qu'on peut contribuer positivement à, et comme le secteur de la construction peut le faire, c'est pratique, voilà, c'est bien.
Et ça, je trouve que ça a quand même plus de sens parce qu'on parle de renaissance, donc ça implique cette notion de transformation, ça implique cette notion de monde nouveau dans lequel on doit s'engager. Donc c'est pas neutre, hein, néanmoins.
Non, c'est pas neutre parce que les gars qui ont écrit le bouquin, ils savaient utiliser ça, mais moi j'ai pas ce niveau-là d'un point de vue littéraire. Donc moi le livre m'a plu, j'ai récupéré la symbolique. Ça pourrait s'appeler direction innovation et écologie, mais c'est vraiment le fait d'avoir une contribution pour améliorer le territoire, et ça marche parfaitement avec la raison d'être centenaire de Rabot du Tilleul, le fait d'avoir un impact sur le territoire.
Bah justement ça m'intéresse aussi de savoir, Rabot du Tilleul est une entreprise centenaire familiale, en quoi ce modèle de gouvernance ou ce type d'entreprise, ça sert aussi vos ambitions de bas carbone?
Pour moi, il y a deux sujets qui sont nécessaires et qu'on a chez Rabot du Tilleul. Un, la gouvernance est stable. Voilà, une gouvernance familiale, ça, en tout cas chez nous, ça génère de la stabilité. Donc on peut voir loin, on peut prendre des actions courtes, effectivement, comme tout le monde, mais on peut voir loin, voir avec son cœur et pas que avec des tableaux Excel.
Et pas que avoir du rendement financier.
On peut faire les deux, mais prendre des décisions en écoutant son instinct, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a le luxe de pouvoir piloter à long terme. Voilà. Donc ça, avec une gouvernance stable, c'est le cas. Il y a des inconvénients avec des gouvernances familiales, mais moi j'y vois plutôt un avantage. Et le deuxième sujet pour la décarbonation, c'est qu'il faut avoir, en tout cas pour nous qui sommes plutôt une boîte pragmatique, c'est il faut avoir des gens qui ont des formations scientifiques. Parce que quand on fait la science, donc quand on sait ce que sont les maths, quand on sait ce que sont la science physique, quand on sait ce que c'est la biologie, quand on sait ce que sont les sciences humaines, je les ai mises dans l'ordre. Hein. J'aurais pu mettre la philosophie tout en bas, mais bon. Et ben quand on fait ça, et quand on se dit, bon, il se passe quelque chose sur cette planète, tout le monde en parle, etc., qu'est-ce que c'est que cette histoire du climat ? Ben, on redescend sur la science du climat. Et quand on redescend sur la science du climat, il y a des unités, il y a des règles physiques, on peut faire tout ce qu'on veut en négociation. Ça dépend quand même des lois de la physique. On découvre ou on admet ou on calcule que la Terre est un système fini. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise pour tenir dans ce système fini? Comment on y contribue? Voilà. Au lieu de développer des chimères qui étaient possibles quand on croyait que le monde était infini tant qu'on n'avait pas touché les limites, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de tout ça? Donc, j'ai des actionnaires qui se sont dit, il faut faire du climat. C'est quoi les grands enjeux? C'est quoi les grandes valeurs, les grands ordres de grandeur, pourvu que le métier de la construction soit là-dedans, ce qui est le cas, ouf. Et si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu qu'on pivote, puisque quand on découvre la réalité scientifique des choses, si on veut survivre, il faut qu'on change. Voilà. Et donc cette stabilité plus cette culture scientifique, ça fait toute la différence. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis de nous transformer.
Et donc pour aider et transformer l'entreprise, il faut transformer les hommes qui sont dans l'entreprise, hein, au moins les sensibiliser. Comment est-ce que vous faites, ou comment est-ce que vous avez fait pour accompagner cette transformation chez les collaborateurs? On a parlé, il faut avoir des personnes scientifiques, mais vous avez aussi sur le terrain des conducteurs qui réalisent, qui opèrent. Comment vous avez fait, comment vous avez accompagné les collaborateurs de Rabotitiel? Je crois que vous êtes plus de 1000 aujourd'hui en France et en Belgique.
Alors, ça fait plein de questions. Alors, d'abord, on est 850.
850, voilà.
Effectivement, en France, en Belgique, pas mal, Corentin. Bonne révision. Alors, je peux raconter comment on a fait. Je sais pas forcément ce qu'il faut faire. Hein.
Voilà. Oui, bah, c'est comment vous avez fait.
Comment on a fait, gouvernance familiale est stable, qui réalise, prise de conscience, il faut que ça change. Voilà. Deux, qui organise le changement? Donc là, il y a des cadres dirigeants qui disent, bon, bah voilà, qui se grattent la tête et qui se disent, voilà comment on pourrait faire. Voilà. Donc c'est de la pure organisation. Donc l'organisation, il y avait trois piliers. Trouver des solutions techniques. Donc ça, c'est pour les ingénieurs qui calculent, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait dans la bâtiment, où est le CO2, où sont tous les autres trucs. Donc chez nous, c'est dans la consommation énergétique et éventuellement la production d'énergie sur site. Un, et deux, sur les matériaux de construction, donc le contenu carbone des matériaux de construction. Donc quand on cherche et qu'on sait ce qu'on cherche, en général, on trouve dans la construction.
T'as des exemples de ce que vous avez trouvé justement, de ce que vous avez transformé en matériaux de construction?
On a vraiment mis en avant le fait que si on avait une architecture frugale et plus de rénovation, on mettait pour faire autant de mètres carrés et autant de plaisir d'usage pour les humains et de qualité d'usage pour les humains qui vont habiter dans le bâtiment, on utilise moins de matière. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'utiliser des matériaux intrinsèquement qui contiennent moins de CO2. Donc sur notre matériau de base pendant 100 ans, qui était le béton armé, le contenu CO2, il est dans le ciment qui est contenu dans le béton. C'est un peu technique, pardonnez-moi. Il y a des gens qui sont des chimistes, des fournisseurs qui sont capables soit d'utiliser un vieux béton qui met plus longtemps à sécher, qui est bas carbone, soit de faire de la recherche vraiment pour fournir des bâtiments, des ciments qui sont moins carbone. Donc on regarde ça de très très près. C'est plus cher, oui c'est plus cher. Mais comme la loi nous dit qu'il faut faire moins de CO2 et comme les clients réclament moins de CO2, si les clients ils ont les sous, ça passe, et ça passe souvent en fait. Parce qu'il y a des sous dans l'immobilier puisqu'on peut l'étaler dans le temps. Ensuite on a des matériaux qui ne contiennent pas de CO2 intrinsèquement, c'est tout ce qu'on appelle les géosourcés. La terre crue, par exemple, voilà, oui. y a pas de CO2. Et puis, il y a encore mieux, il y a les matériaux qui stockent du CO2 dans leur cycle de vie, c'est tout ce qui provient de la biomasse. Donc là, le bois, c'est la star, mais pensez à la paille, au chanvre, au bambou, etc.
Du béton de chanvre, c'est des choses que tu as testé, que vous avez testé au sein de Rabot-Dutilleul?
Oui, on a testé plusieurs fois. Il n'y a pas de difficulté de mise en œuvre particulière. À partir du moment où on se dit que dans le bâtiment, il y aura du béton de chanvre pour des raisons de calcul CO2 ou pour des raisons de volonté du client, on pose du béton de chambre et puis tout va bien.
Et les équipes sur place, sur le terrain, quand tu leur annonces demain on va poser du béton de chambre, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils réagissent?
Alors ils disent pas la même chose en 2025 qu'en 2022. En 2022 c'était ça rapport à la tête.
Ouais.
Voilà. Mais on a gagné le concours en mettant des bétons de chambre. Ben moi j'en poserais pas. Voilà.
Ouais.
Donc voilà. Mais je suis pas persuadé que ça soit spécifique à Rabot-Dutilleul, c'est peut-être un peu la culture chantier. Donc, je ne veux pas faire de changement.
Oui.
Voilà. Mais en projection intellectuelle, voilà, c'est impossible. Hyper conservateur, on va dire, dans les idées. Et puis l'inverse quand le chantier arrive, c'est-à-dire qu'au moment du chantier, quand les éléments de béton de chambre sont arrivés, là c'était des projets qu'on avait pour des bâtiments pénitentiaires en Île-de-France. Voilà, les éléments de chambre sont arrivés et 10 minutes après, ils jouaient avec. 10 minutes après, c'était, c'est rigolo, en fait, ça sent bon, comment ça se fait, comment on le scie, comment on le colle, moi, je l'aurais pas fait comme ça, et puis c'était parti. Parce qu'en fait, c'est des artisans dans l'âme, les gens du terrain. Donc, ils voulaient pas d'idées nouvelles. Et puis, quand ça leur arrive dans les doigts, ils sont hyper contents, et ils y arrivent très très bien. On a la même chose avec le bois, donc il fait peut-être moins ou plus innovant, j'en sais rien, mais pendant 10 ans, c'était impossible de parler de bois dans le BTP, parce que il y avait les 3 petits cochons qui avaient régné là-dedans. Et maintenant, mes gars, ils réclament du bois parce qu'ils en ont déjà posé. Ils disent encore. Et les clients, ils se rendent compte, en plus, que comme on vient du gros œuvre chez Rabot-Dutilleul, on a la science de la cadence. C'est nous qui gérons les basses-vies. Les grues sont déjà là. Et en fait, on pose le bois plus vite que nos fournisseurs de fournitures et posent sur le bois. Donc, ce qui se passe sur plusieurs chantiers, dont un qu'on a en ce moment pour une clinique à Mézières-les-Metz, que l'entreprise qui était censée fournir le bois et poser le bois a décidé finalement de seulement amener le bois, et c'est les gens de Rabot-Dutilleul qui le posent. On crie sur les toits, enfin on pense qu'il faut faire des formations, mais en fait non, ça se passe très bien comme ça.
À propos de formation, parce que depuis quelques temps
mais là on est que sur les solutions techniques, Corentin.
On est sur les solutions techniques,
c'est que un tiers de la conduite du changement,
j'imagine, et tu vas nous expliquer les deux autres tiers. Je voulais juste parler aussi des formations, parce que tu as parlé tout à l'heure de la fresque de la renaissance écologique. Je sais que chez Rabot-Dutilleul tous les collaborateurs ont été formés à la fresque du climat et la fresque de la renaissance écologique.
Oui.
Tous sans exception, et je crois que vous êtes un des premiers à avoir initié cette démarche auprès de l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise. Quel impact ça a eu justement? Quel changement t'as pu voir à l'issue de ces formations? Est-ce que c'est un des deuxièmes tiers?
Ouais, c'est le deuxième tiers. Je sais plus qui a dit ça. En tout cas, pour pouvoir agir, parce que nous on veut agir, il faut comprendre. Voilà, c'est le cliché du sens, mais en fait, là, c'est bien passé. Donc, en fait, on forme ni à la fresque du climat, ni à la fresque de renaissance écologique. Ces deux outils sur étagère qu'on a utilisés pour bâtir une formation qu'on appelle formation à l'urgence climatique, qu'on a fait avec deux autres sociétés partenaires, Share and Smile, et puis le département RH de Nakara à l'époque. Qui dure 8 heures. Et en fait, dans la même journée, on fait une grosse prise de conscience scientifique sur le climat le matin, donc en musclant beaucoup la fresque du climat. Et l'après-midi, le midi, ils mangent du tofu, comme ça leur apprendra à manger.
Dans un endroit, il fait très chaud, avec beaucoup de fenêtres.
Potentiellement, dans un endroit, il fait chaud, voilà. Ça permet de... Bon, bref. En tout cas, il y a une unité de lieu, et puis il y a des gens qui ont pleuré à la fin de la fresque du climat.
À la fin de la fresque du climat, c'est juste petite parenthèse. À chaque fresque, formation urgence climatique, tu invitais aussi des personnes extérieures qui vous suivent. Pas de Rabot-Dutilleul. Moi, j'ai eu la chance d'être invité une fois. Et c'est vrai qu'à la fin de la première matinée, on a les boules.
Voilà. Et donc, c'est pour ça. Mais on force le trait le matin. C'est-à-dire qu'on raconte vraiment la vérité sans pincette. Parce que l'après-midi, on a la fresque de renaissance écologique, et la fresque de renaissance écologique, ça montre un monde où on a réussi.
Exactement.
En utilisant la technique quasiment d'aujourd'hui, voilà. Donc, c'est la fresque de renaissance écologique qui a été utilisée par l'ADEME pour illustrer ces scénarios de décarbonation, donc des calculs d'ingénieurs, et qui se matérialisent sur cette fresque graphique qui est un outil pratique pour faire des formations. Donc, l'après-midi, mes collaborateurs mélangés, ils se rendent compte que, un, c'est possible, c'est difficile, C'est un peu comme une piste noire, quoi. Mais comme quand tu vois des gars qui sont en bas de la piste noire au ski, tu te dis, bon, bah, finalement, c'est possible d'y arriver. Il y a des gens qui ne meurent pas. J'y vais, mais j'ai peur. Mmh. Voilà. Bon. Donc là, c'est possible. Donc, ils pensent à leur famille, pensent à leur vie. Et en plein milieu de la fresque, donc ça, c'est la partie ouf. Voilà. Et en plein milieu de la fresque de Renaissance écologique, sans aucune surprise pour les gens qui ont travaillé le sujet, il y a une grue. Parce que dans tous les scénarios de décarbonation, autres que la guerre, famine, maladie, hein, puisque si on ne fait rien, ce sera guerre, famine, maladie, dans tous les scénarios pacifiques de décarbonation, on transforme le patrimoine immobilier. Si on transforme le patrimoine immobilier, il y a des chantiers, et s'il y a des chantiers, il y a rabot des tilleuls. Et donc les gars, là, ils se disent, un, c'est possible, deux, mon métier en fait partie, et trois, ah ben, j'ai envie d'être celui qui transforme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça amène tout de suite les exercices de créativité. Donc, bah, qu'est-ce que je peux faire dans mon métier ou dans ma boîte pour pouvoir décarboner? Ça marche tout seul. Donc, la prise de conscience des collègues sur c'est possible et je vais le faire chez Rabot. Et enfin, je comprends, ou peut-être pas enfin d'ailleurs, et je comprends la stratégie de décarbonation. Et avant, quand on me parlait de chanvre, je voulais pas, puis je comprenais pas pourquoi on faisait ce gadget. Maintenant, je comprends pourquoi. Avant, quand on faisait de la rénovation en site occupé, j'avais pas envie parce que je voulais faire des grands châteaux en béton, et maintenant, je comprends l'intérêt. Et ben, ça a suscité des vocations et ça a rendu notre transformation en matière de marché. On était à 0% rénovation en 2020, on est à plus de 50% en 2024. Ça a rendu ça tout cohérent, tout fluide, c'est même pas difficile. J'ai des collègues maintenant, ils font des rénovations en site occupé. Là, j'étais à Strasbourg la semaine dernière, on est en train de livrer un bâtiment de 150 logements pour un bailleur social. Je leur ai demandé, c'est écolo ou c'est pas écolo? Donc un truc qui était étiquette F, qui passe étiquette A, qui sort du gaz, qui enlève 150 familles de la précarité énergétique, ils ont dit, bah non, c'est pas écolo, on a posé du polystyrène. Donc ils se rendent même pas compte qu'en sortant des gens de la précarité énergétique, ils font quelque chose qui est excellent pour le territoire, et c'est ça qu'il faudrait faire fois beaucoup, hein, selon le shift. Donc ça a permis de rentrer le sujet dans les mœurs. C'est plus un sujet écolo, c'est un sujet de stratégie de rabot de tilleul. Donc ça, c'était le point 2. Donc ça a eu un impact extrêmement important et discret en même temps.
Oui.
Voilà. Et le point 3...
Donc matériaux transformés, on va dire ça comme
matériaux, énergie transformée.
Énergie transformée, des hommes.
Des
transformés,
hommes, des femmes, des humains, j'appelle ça.
Des voilà. Humains, t'as raison.
On n'a pas de hobbits, mais si on avait des hobbits, on les aurait aussi formés. Et trois, c'est la mesure. Donc, un magnifique bilan carbone, scope 3 en 2021. Prof, les accords de Paris là-dessus, moins 30% sur 10 ans. Alors en fait, les accords de Paris, c'est moins dur que ce qu'on fait, puisque ça a démarré en 2015. Mais nous, on démarre en 2020 parce qu'on n'a pas voulu changer la valeur, voilà. Donc il y a la pente, et puis tous les ans on mesure. Donc on prend toute la matière qu'on pose sur les chantiers ou que nos sous-traitants posent sur les chantiers, donc toute la matière du chantier en fait. En tant qu'entreprise générale, on pense qu'on a cette responsabilité morale. On prend toutes les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique sur les 50 ans qui viennent, comme la réglementation thermique nous le demande, sur tous les projets, et on prend tous les bâtiments qui ont été livrés dans l'année. Voilà. Ça, c'est une facilité de calcul. Sinon, à l'avancement, c'est un peu plus compliqué. On divise par les mètres carrés, ça nous donne notre cible. Donc, on a démarré à 1100 et quelques en France. Hein. 1100 pour la France, 1400 pour la Belgique, parce que leur électricité est moins décarbonée. Ils utilisent plus de béton, je ne rentre pas dans les détails.
Quand tu dis 1100, c'est 1100 ?
1100 kg de CO2 par mètre carré livré.
Voilà.
Et notre cible en 2030, c'est 760 pour la France.
Okay.
Et 980 pour la Belgique. Ça fait 3,3% par an, ce qui est à peu près les accords de Paris. Si on fait ça, on est bien. Si on fait mieux, c'est super. On ne compte pas là-dedans les émissions évitées, donc le fait qu'on enlève des passoires énergétiques. On pourrait même faire des crédits carbone avec ça. On compte pas le fait que les gens qui habitent dans ces bâtiments-là n'habitent plus dans des passoires ou dans de l'ancien ailleurs. On ne compte pas. Enfin, on le compte, mais pour l'instant, on ne valorise pas le contenu de biomasse, donc ce qu'on appelle le CO2 biogénique dans les bâtiments, parce que c'est du CO2 qui reste longtemps, les poutres, les machins et tout. Et on n'a pas encore fait de contribution financière à l'accroissement des puits de CO2, c'est-à-dire la compensation carbone, comme on disait avant. Voilà. Il y a des tas de trucs qu'on n'a pas fait encore, donc on travaille avec les bonnes associations qui travaillent sur ce sujet de contribution des entreprises à la neutralité d'un territoire, parce qu'une entreprise ne peut pas être neutre intrinsèquement, ça n'a aucun sens.
Donc la mesure, pour l'instant, vous êtes plutôt en ligne avec vos objectifs ?
Ouais, on est même un petit peu en avance, ouais. Mais la comptabilité carbone est suffisamment floue pour rester très prudent là-dessus. Hein. Le truc le plus simple pour baisser le bilan carbone d'un bâtiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une architecture frugale. Ouais. Voilà, donc de poser moins de matière, ça c'est vraiment la clé. Et le deuxième, c'est d'être très très précis dans son bilan carbone, parce que quand on est très précis dans le bilan carbone, on prend des valeurs spécifiques produit par produit et non pas des valeurs génériques. Et comme toutes les valeurs génériques, elles sont dégradées, si on prend le temps de prendre les valeurs spécifiques du CO2 du produit, et bien on fait baisser le bilan carbone alors qu'on n'a rien changé à la conception du bâtiment. Le troisième point pour baisser le bilan carbone, c'est le réemploi, parce que ça vaut zéro et que c'est le même type de produit. Et donc ça nous a donné des idées, ces histoires de réemploi qui vaut zéro carbone. On vient de créer une activité qui s'appelle Préserve, qui vient d'ouvrir à Roubaix là sur une plateforme physique de réemploi. Donc tout ça se tient, tu vois.
Oui.
Est-ce que les clients, ils nous le demandent? En neuf, ils sont obligés, c'est la loi, ça s'appelle la RE2020 et elle est super. Donc qu'il y ait de l'émotion ou pas d'émotion, ils en ont besoin. Et à force d'en faire, ça commence à devenir vraiment pas cool s'il n'y a pas de dimension écologique. Avant, c'était cool s'il y en avait pour certains d'entre eux.
Ouais,
maintenant, c'est presque honteux s'il n'y en a pas. Mm. Voilà. Il en reste. Hein. Et puis, si la relation elle est bonne, on s'y penche. Mais un client qu'on ne connaît pas et qui nous demande de faire un bâtiment pourri, j'en ai un en tête là. C'est pas beaucoup, 1 sur 30 chantiers. Ouais. Bah, 1 sur 30, c'est pas beaucoup. Hein.
Il y en a encore malheureusement, mais il y en a presque plus. Je reviens sur. On recevait là, il y a quelques temps, David Lestoux, qui est prospectiviste urbaniste, qui nous disait des chiffres que tout le monde peut vérifier, c'est que 80% de l'immobilier d'ici 2050 est déjà construit. Mmh. Une entreprise comme Rabotitiel qui a beaucoup construit, comment elle se transforme par rapport à ces enjeux, quel impact ça va avoir sur vos métiers?
Il faut rentrer dans le détail, mais le métier de Rabotitiel, c'est le chantier.
Oui.
Voilà. Donc il y a deux choses qu'on sait faire sur un chantier, vraiment deux. Il y a discuter avec le maître d'ouvrage et gérer la liaison au sol, là, parce que il y a plein de trucs qui sont pas prévus, voilà, sur un chantier. Tu imagines des tas de choses, et puis, il pleut, il y a une taupe qui sort du sol, on trouve une amphore, enfin, les voisins, enfin, il se passe des trucs sur le site, là, t'as beau prévoir tout ce que tu veux, sur le terrain, sur le pré, comme on dit en rugby, et ben, il y a des imprévus, voilà. Donc c'est les deux seules choses qu'on sait vraiment bien faire, mais on sait bien les faire. On sait discuter avec la personne qui veut transformer ou fabriquer un bâtiment dans lequel on y mettra des humains, c'est comme ça qui est le plus important, et on sait gérer le chantier. Et ben que ça soit de la réno ou du neuf, Corentin, c'est pareil. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Donc avant, les conditions, les maîtres d'ouvrage, ils voulaient un champ de patates et faire des montagnes en béton avec. Maintenant, les mêmes, ils nous disent il faut faire de la rénovation. Ça reste une discussion avec un maître d'ouvrage et ça reste un chantier. Ah oui, le chantier, il est plus compliqué en rénovation qu'en neuf, puisque par définition, on démonte des trucs et on tombe sur des choses qui n'étaient pas prévues, puisqu'on n'avait pas démonté avant, puisqu'il y avait des gens qui habitaient dedans. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est bien si c'est compliqué pour une boîte qui a la technicité et l'ingénierie comme Rabotitiel, c'est bien pour nous. C'est peut-être pas bien politiquement, peut-être qu'il faut trouver des solutions plus simples. C'est là, donc on y réfléchit aussi sur la standardisation des solutions pour faire du volume. Hein. Si on suit les scénarios de décarbonation, il faut faire entre x5 et x10 le volume de rénovation qu'on fait aujourd'hui pour atteindre la cible en 2050. Ouais. Si la France n'atteint pas la cible en 2050, peut-être que tous les autres pays du monde l'auront atteinte. Et puis on sera suiveur, peut-être qu'aucun autre pays du monde l'aura atteinte et ce sera une catastrophe et de toute manière ça fera guerre, famine, maladie. Donc nous on joue gagnant, on va atteindre la cible. Et pour faire x5 ou x10, il faut qu'on se casse la tête pour trouver des solutions qui soient standardisables, démultipliables, hors site ou industrialisables en petit, comme on veut. Mais il n'en demeure pas moins que la raison d'être et le savoir-faire de cette boutique, comme d'autres boutiques de construction, c'est de discuter avec le maître d'ouvrage et maîtriser le chantier. Et que ça soit en rénovation ou en neuf, c'est pareil. Il y a un sujet, c'est la matière béton. J'ai des collaborateurs, pas tous, même pas beaucoup, minoritaires. En fait, leur truc, c'est le béton. c'est pas de construire des maisons, c'est pas de construire des bâtiments. Ils sont amoureux de la matière.
Ouais.
Voilà. Donc ceux-là, je peux pas leur dire fais de la rénovation où il y a moins de béton. Je peux pas leur dire pose du chanvre où il y a moins de béton. Je peux pas leur dire pose du bois parce que ça leur fait mal au cœur et quand on a mal au cœur, on travaille pas bien et puis surtout dans une boîte, on va dire humaine comme Rabot des Tilleuls. Où est-ce qu'on va utiliser du béton demain? Bah dans le génie civil. Pourquoi faut faire du génie civil? Parce qu'il faut absorber toutes les transformations du système énergétique, au moins du territoire français et peut-être belge. Donc pour les socles des éoliennes, pour les socles de tous les transformateurs que RTE est en train de transformer, pour accueillir, si jamais elle arrive à fonctionner, les nouvelles centrales nucléaires, enfin du génie civil. Donc pas pour fabriquer des bâtiments, mais pour fabriquer des ouvrages techniques et probablement énergétiques. Le matériau le plus pertinent pour faire ça, c'est le béton. Et le ciment dedans peut être du béton bas carbone, par ailleurs. Et donc, on a réouvert un département génie civil. Et j'ai des ouvriers qui vont petit à petit glisser de la fabrication de bâtiments vers la fabrication d'ouvrages de génie civil en gardant le béton. Les autres, ils sont pas amoureux de la matière, donc ils vont continuer à faire du bâtiment, et c'est très bien.
En tout cas, on voit que vous êtes bien armé pour affronter les prochaines années, équipé, effectivement, parce qu'on arrive au terme de cette émission passionnante.
Oh.
Voilà, c'est déjà 24 minutes ressenti 2. En tout cas, on a hâte de voir comment Rabot des Tilleuls va évoluer dans les 100 prochaines années, puisque vous êtes déjà, Rabot des Tilleuls, déjà une entreprise centenaire. Donc, voilà, peut-être un dernier mot pour nos auditeurs, Rodolphe, avant de nous quitter.
Rien de tout ça n'arrivera si le contexte politico-économique ne demande pas concrètement et réellement les travaux de transformation du patrimoine immobilier. On dit tout ça depuis le Grenelle de l'environnement. Ce discours-là, on le disait en 2008. Voilà, les métiers de l'avenir. Une profession d'excellence mondiale, le BTP en France, le fait que c'est pas délocalisable, parce qu'un chantier n'est pas délocalisable par définition, que ça crée de l'emploi, ça crée etc. Tout ça ne fonctionne que si il y a une commande de la part de clients qui veulent transformer le territoire massivement. Exactement comme la construction, la reconstruction après-guerre, les deux, exactement comme le plan Marshall, enfin le plan Roosevelt aux États-Unis dans les années 30 pour soutenir après la crise de 29. Donc en fait, c'est des sujets d'infrastructure de territoire. Il n'y a pas de plus beau projet politique ou économique que la volonté de transformer et d'améliorer le patrimoine d'un pays. On a réussi à le refaire avec Notre-Dame. On a réussi à soigner les Français du Covid. On doit réussir à passer commande de fois 5, fois 10. Donc presque 1 million de rénovations par an. Si on fait ça, les entreprises, elles seront prêtes. Il y en a qui iront plus vite, il y en a qui iront moins vite, mais les entreprises de construction seront faites. Celles pour qui la fonction est très carbonée, bah, elles vont pivoter ou elles vont mourir. Mais ça, c'est l'histoire de l'économie. Hein. Il y a moins de guitares sèches aujourd'hui que de DJ. Hein. C'est la vie, il y a quand même de la musique. Mais on est prêt. Voilà. Ce qu'il nous faut absolument pour que tout ça existe, c'est une commande. Et ça, c'est un contexte politico-économique. Des fois, on a le vent dans le dos, des fois, on l'a pas dans le dos. J'espère qu'on l'aura de nouveau dans le dos le plus vite possible, parce que toutes les solutions sont là, il y a qu'à le faire.
Bah, Rodolphe, il faudra qu'on te réinvite pour prolonger en tout cas ces échanges. Merci beaucoup. On a hâte de suivre l'avancement de cette renaissance écologique hein, et de voir comment Rabot des Tilleuls continuera d'inspirer le secteur. Merci à vous qui nous écoutez. Retrouvez cette émission en podcast et sur toutes vos plateformes habituelles. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de l'interview. À très bientôt.
L'interview MyImmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.